Et bienvenue dans Histoire, Histoire. Une émission qui vous embarque de Larise à Lalaise à la découverte de l'histoire et des légendes du Volvestre. Entre l'histoire attestée, la certifiée qu'on trouve dans les livres savants, et les histoires que l'on raconte les nuits d'hiver quand les pierres fendent leurs secrets, je vous invite à une balade contée, bonne à bouleverser nos savoirs et à enchanter nos regards. Histoire, Histoire. Un podcast proposé et soutenu par l'Office du Tourisme et la communauté de communes du Volvestre. Dans le mot Volvestre, il y a voler vers. Voler vers sa terre natale, voler vers sa terre d'adoption, voler vers des vacances, des chemins de crête, un panorama, une histoire locale. Il y a voler vers, aller de là à là-bas. Mais il y a aussi dans ce mot quelque chose de « volver ». En espagnol, « retourner »,« revenir ». Et le mot même, avec ces deux « v », a quelque chose de circulaire, comme une balade ou une odyssée, un va-et-vient, un revenir. Je vole vers le Volvestre et je fais le tour de ces deux « v », petites montagnes inversées sur la page. Je fais le tour de ces vallées, de ces vues affranchies, et soudain, me voici revenu des « vuelto » à mes racines, ma source, mon ancrage. Dans Volvestre encore, j'entends Sylvestre, quelque chose de forestier. J'entends agreste aussi, comme le souvenir d'une terre rude et rurale où les tracteurs grimpent têtus dans les pentes. Peut-être même que dans Volvestre, on entend chanter les loups, allant par les sonorités du volp au wolf. Avide d'aventure, vous êtes parti vers les crêtes en journée pour admirer le panorama sur les Pyrénées. Passé Carbone, vous avez pris les directions de Lacogne ou La Trappe. Au passage, vous avez peut-être salué le nid des éléphantaux, troupe de cirque haut perché sur ses hauteurs funambules. Puis vous avez peut-être prolongé l'exploration entre Bax et La Pérère sous le regard étonné des Milans, de l'Elagnon ou des Guépiers. À la nuit tombée, par ce soir bleu d'été, vous avez décidé de bivouaquer. Allongé donc là, dans ce champ, vous continuez d'écarquiller les yeux pour sonder plus loin, capter l'infime. Alors, dans cet élargissement de tous les sens, le monde s'inverse. Voilà que c'est la terre qui tombe, et vous avec, vous coulez dans ce noir et parmi les étoiles, taches de rousseur caressées sur le visage de la nuit. Le temps s'étire, rêve et réel se mêlent. Une chauve-souris soudain passe, écran fugace sur le ciel constellé qui nous ramène à l'instant, et au petit monde de la nuit. En 2022, la communauté de communes du Volvestre a signé une convention avec l'Office français de la biodiversité afin de réaliser un atlas de biodiversité intercommunal. Il s'en est suivi, entre autres, un recensement des chiroptères, des chauves-souris, avec l'aide des communes, mais aussi des particuliers, principalement sur les villes de Carbone, Rieux-Volvestre, Lafitte-Vigordane et Bois-de-la-Pierre qui participaient à l'opération. La chauve-souris de ce soir a-t-elle été comptée dans le recensement? Était-ce une pipistrelle pygmée ou un grand rhinolophe? Les lépidoptères, comprenons les papillons, ainsi que les reptiles, les hirondelles et les habitats naturels cartographiés sont aussi de la partie dans cet inventaire de la faune. Tandis que tombe la rosée, une symphonie naturelle monte à vos oreilles. Sauterelles, scarabées, grillons, courtilières, crapauds halites accoucheurs, grenouilles, le vol lourd des papillons de nuit et même phasmes. Oui, tout camouflés qu'ils sont, les phasmes font du son. Connaisseurs, vous distinguez la chevêche d'Athéna, la chouette effraie, la hulotte, le hibou grand ou moyen duc qu'on peut entendre autour de la retenue de Manciès, sur la Garonne, non loin de Carbone. Et s'il vous venait l'envie d'explorer accompagné, l'Office du Tourisme du Volvestre propose des éco-randos nocturnes pour découvrir ce monde de la nuit. Il faut dire encore que 5 ZNIEF, entendez zones naturelles d'intérêt écologique et faunistique, sont répertoriées sur le territoire du Volvestre. La Chéline et versant du Rimaud, l'Arize et ses affluents en aval de Cadarcet, les Landes à l'est de Montesquieu-Volvestre, les lacs de Pessy, la Garonne et ses milieux riverains en aval de Montrégeau, sans compter l'arrêté de protection de biotopes pour la Garonne, l'Ariège, l'Ers, le Vif et le Salat. Mais pour sauver toute cette nature, est-ce encore assez? En tout cas, ici, et particulièrement sur les coteaux, nous sommes loin des pollutions. On pense souvent aux pollutions chimiques, pesticides, gaz d'échappement, mais il en existe d'autres, insoupçonnées. La lumière, le bruit et les réseaux de barrières et de routes qui entravent le passage des espèces, les sols meurtris. Pour y pallier, l'Office français pour la biodiversité, OFB, développe la notion de trame, chargée d'assurer une continuité biologique à l'échelle nationale. Aux espèces diurnes, les trames bleues et vertes. Aux pollutions sonores, des trames blanches. Et aux espèces nocturnes qui nous concernent, effort est fait pour des trames noires. À l'image du plan Trame sombre, développé par le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, dont nous profitons. Pris dans les lumières artificielles, les papillons de nuit, ne l'oublions pas, perdent leurs repères, tandis que les chauves-souris, qui se repaissent de moustiques, sont troublées dès lors qu'elles se trouvent à moins de 100 mètres d'un lampadaire. Au loin, le vrombissement d'une voiture dans la côte se fait entendre. Dernier virage, et voilà ses phares plein cadre, barre parallèle qui découpe la nuit. Mais plutôt que de continuer sa route, au faîte de la crête, elle tourne dans un champ, puis s'arrête. On entend des voix, des personnes garées là qui s'installent elles aussi. Vous approchez et vous voyez leur matériel. Lunettes astronomiques et télescopes sont de la partie. Ces deux-là ont fait 2h30 de route pour venir précisément se jucher sur ces coteaux précieux. Avides de voir vous aussi, il ne reste plus qu'à prendre le chemin du Balcon des Étoiles. Géré par l'association Les Pléiades, le Balcon des Étoiles est un observatoire basé à La Trappe qui accueille le grand public et les professionnels du ciel ainsi que des scolaires tout au long de l'année. Hyperactif, il reçoit ses publics pour des stages, des soirées d'observation, des séances de planétarium, des conférences, des dîners astronomiques pour l'œil, la curiosité, et gastronomiques pour l'estomac, avec produits locaux, ou encore pour des événements célestes, tels le Marathon de Messier, réservé au public averti cette fois-ci, où il s'agit de retrouver dans le ciel, en 2 soirées maximum, les 110 objets décrits dans le catalogue de Charles Messier, cet astronome français du XVIIIe siècle qui, pour se concentrer sur l'observation des comètes, avait référencé dans le ciel tout ce qui n'en était pas. Nébuleuses planétaires, amas d'étoiles ouverts ou globulaires, galaxies elliptiques, spirales, lenticulaires ou irrégulières. Tous ces objets identifiables dans des constellations dont les noms portent à rêverie. Petit renard, queue de serpent, écu de Sobieski, Sagittaire, Pégase, Cygne. Alors, pour participer à vos boussoles et autres éphémérides. Cependant, si ces défis et la technique associée vous intimident, le Balcon des Étoiles propose aussi des balades familiales au coucher du soleil ou bien même la location d'une cabane intitulée « Au clair de lune » équipée d'une lunette astronomique. En tout cas, avant d'aller percher votre regard aux étoiles, n'hésitez pas à consulter leur site internet à l'adresse www.balcondesetoiles.fr. Quand notre unité de mesure est l'année-lumière, on peut se dire que le Parc National des Pyrénées, nommé première réserve de ciel étoilé d'Europe, n'est pas très loin. Observable aux 3/4 de sa longueur depuis nos coteaux piémontais, elle hérisse massive en cette nuit claire ses sommets dentelés, notre belle chaîne des Pyrénées. La science raconte qu'elle remonte à 400 millions d'années, au moment même où les premiers poissons apparaissaient sur Terre, lorsqu'elle faisait partie de l'immense chaîne Varisque sur le supercontinent Pangée. Érodée il y a 270 millions d'années, elle commence de réapparaître sous sa forme actuelle il y a environ 60 millions d'années par la rencontre de la plaque tectonique ibérique avec la plaque eurasienne. Mais bon, ces considérations savantes n'entachent pas la légende associée à sa naissance, et peut-être aussi à son nom, dont l'origine malgré tout demeure inconnue. Alors, ce soir, sous les feux de la constellation d'Hercule qui veille sur elle depuis les temps anciens, racontons l'histoire, ou plutôt, une des histoires de la naissance de ces montagnes. Au temps longtemps, avant même que la Gaule ne fût la Gaule et libérât l'Espagne, sur ce vaste territoire allant de l'océan à la Méditerranée, vivait le peuple des Bécrides. Bébrix était leur roi et nul ne contestait sa cour. À bien observer, dans chaque jardin, une fleur se distingue parmi les autres. Eh bien, à la cour de Bébrix, il en allait de même. Et c'était Pyrène, sa fille, qui s'y distinguait. Par sa beauté, par son savoir, sa fraîcheur et son intelligence vive. Bien sûr, tous les rois et les seigneurs des environs se pâmaient pour avoir sa main. Mais Pyrène ne voulait l'offrir qu'à celui-là seul qui saurait toucher son cœur et ses désirs. Or voici qu'un beau jour, la porte du palais s'ouvrit pour y laisser entrer un homme inconnu. L'homme était bâti comme nul autre pareil. Habillé d'une gigantesque peau de lion, d'une simple ceinture et chaussé de sandales lacées, il avait une stature incomparable. Tout en lui exprimait la force, l'endurance et la volonté. Assurément, quoique les Bécrides fussent beaux, ils n'étaient pas d'ici. L'homme s'appelait Héraclès. Il venait, disait-il, des confins de la Terre pour rapporter à Eurysthée, le roi d'Argolide, les génisses extraordinaires et plus blanches que le lait, dit-on, de Gérion, un bouvier ibère monstrueux. Selon la légende, Gérion possédait 3 têtes aussi dures que le bois, montées sur 3 torses velus, et il veillait jalousement ses génisses. Héraclès racontait aussi avoir déjà accompli 10 des 12 travaux commandés par Eurysthée. Tuer entre autres le lion de Némée, l'hydre de Lerne, le sanglier de Rimante, détourner un fleuve pour nettoyer les écuries d'Augias. Mais il concédait que récupérer les génisses de Gérion n'allait pas non plus être une tâche aisée. Alors, pour entrer inaperçu dans le royaume ibère et subtiliser les génisses, Héraclès avait conçu le plan de se fondre parmi les Bécrides pour pénétrer par la suite en territoire voisin sans éveiller l'attention. Il demandait pour cela l'aide du roi et de sa cour. Mais lorsqu'il vit la belle Pyrène, son cœur s'enflamma. Et ses desseins pour le cheptel de Gérion ne furent plus que cendres dans le vent. Après tout, pyre, en grec, ne signifie-t-il pas le feu, comme notre pyrolyse dans nos fours ? Pour l'incendiaire Pyrène, il en fut de même. À la nuit tombante, ils se parlèrent tous deux, et nul doute que le dieu Amour jouait de leur cœur ce soir-là. Les jours passaient, et Pyrène comme Héraclès ne se lassaient l'un de l'autre. Ils se feraient bergers, fugitifs. Ils oublieraient leurs conditions, leurs devoirs, ne veilleraient que sur leurs troupeaux, et vivraient au bord des torrents. Tout l'été, ils se retrouvaient sous le couvert des bois, au bord des lacs, à dénombrer les étoiles, deviner leur destin, enchantés l'un de l'autre, partageant promesses et serments. Puis les vendanges vinrent, et l'automne s'annonça. Les vents forcirent, tournèrent, il y eut des pluies, les premiers froids, et les oiseaux migrateurs de toute l'Europe commencèrent à prendre leur envol. Est-ce que les paroles tombent comme les feuilles à l'automne ? Je ne sais. Mais un jour que Pyrène était parti chercher une bête égarée, Héraclès, qui l'attendait sur un rocher dominant la vallée, vit passer au-dessus de lui un vol d'oies sauvages. Hélas, c'est par cet augure que la mémoire de sa quête inachevée lui revint, amère. Ce qui lui remuait l'âme, ce n'était pas tant les génisses de Gérion, ni un quelconque sentiment de devoir pour Eurysthée, non, mais l'idée qu'on le prît pour un lâche, qu'on crut qu'il avait failli, qu'il avait abandonné, et que là-bas, en Grèce, on se moqua de lui. Tout à la crainte de son honneur bafoué, il partit aussitôt. Et qu'importe les inquiétudes de Pyrène, elle savait quel était son amour, il reviendrait bientôt. Lorsque Pyrène revint au rocher où elle pensait le trouver, il était déjà loin. Les esprits les plus vifs, les cœurs les plus alertes sont aussi parfois les plus sensibles aux tourments, et Pyrène était ainsi. Éperdue, craignant le départ définitif de son amant, elle courut longtemps, par les bois, par les vallées, par les ronces et les futaies, par les rocs et les lacs à sa poursuite. Mais impossible de talonner le héros grec. La malheureuse Pyrène commençait d'y laisser sa vie, échevelée, griffée, exsangue et brûlée de l'affreux doute. Bientôt, au détour d'un chemin profond, elle disparut. Quand Héraclès revint quelque temps plus tard au rocher, il ne la trouva pas. Il chercha Pyrène de toutes parts, l'appela si fort que même parmi les plaines sa voix lui revenait, mais en vain. Rongé, ravagé, il revint même auprès de Bébrix. Après tout, peut-être avait-elle trouvé refuge auprès de son père, mais il ne fit qu'apprendre avec douleur au roi la disparition de sa fille. Des jours, des mois passèrent où il allait comme fou, la recherchant. Quand enfin il la retrouva, Pyrène n'était plus. Fou de douleur, Héraclès, qui l'avait tant aimée, voulut lui dresser un tombeau à la mesure de son amour immuable. Le demi-dieu creusa la terre, arracha sans compter les plus énormes rocs qu'il pouvait trouver et les amassait sans relâche, jour après jour, afin que tout le monde se souvînt de Pyrène, de l'amour qu'il lui portait. On dit qu'avant de s'en aller, Hercule tint devant la sépulture ses paroles. « Pour que nul à jamais n'oublie ta mémoire, que ces montagnes habitées bientôt des hommes portent ton nom, et que, de tout le monde, elles soient connues désormais comme les Pyrénées. » On raconte qu'Héraclès mourut bien des années plus tard d'une tunique empoisonnée par le sang d'un centaure. On raconte que, pour mettre un terme à ses souffrances, il demanda à son fils de bien vouloir le placer sur un bûcher d'où, atome parmi les atomes, il rejoignit l'Olympe, les autres constellations, sous la bienveillance de Zeus et d'Athéna. Alors ce soir, depuis notre balcon des étoiles, enchanteur, regardons au loin, la vaste chaîne des Pyrénées devant nous, ce grand corps blanc que veille à jamais Hercule au-dessus de nous, dans le ciel peuplé. Peuplé de science, de mythes et d'inconnus. C'était Histoire, Histoire. Un podcast proposé et soutenu par l'Office du Tourisme et la Communauté de Communes du Volvestre. Écrit et réalisé par Gabriel Tamalet, en association avec la compagnie Présence Monde. Retrouvez l'émission et les épisodes précédents sur le site radiogalaxie31.com. À bientôt, sur les chemins du Volvestre.